Elsa Triolet, 1er mai 1934. 6h30 du matin. Il fait tiède. Nous filons à bord d'une voiture de course à trois roues, si basse qu'on a l'impression d'être assis à même l'asphalte et de rouler sur ses propres fesses. Nous pénétrons bruyamment dans le spacieux Paris du matin. Ça et là perce une activité humaine. Marchands de journaux, cafés, petites voitures de muguet, des masses de muguet, la fleur porte-bonheur de mai. Je suis tous yeux, tout ouïe, comme parfois la nuit, lorsqu'il vous semble que quelque chose tape quelque part, que quelqu'un marche, et il me semble que la ville est au pouvoir du 1er mai. De grands immeubles neufs, une porte de la ville, après elle une banlieue, Boulogne, peu différente de Paris. Nous tournons d'une large avenue dans une petite rue. Nous quittons la voiture au carrefour. De tous côtés, par les trottoirs étroits ou la chaussée, des ouvriers des usines automobiles Renault affluent. Ils avancent en silence et vite, se rattrapant les uns les autres, des milliers de travailleurs. Marchands ambulants de saucisses et de petits pains, petites voitures de muguet, fleuristes offrant du muguet, de rares voitures passent, toutes dans la même direction. Les cafés sont bondés, on y boit du café au comptoir. Je demande à la jeune femme qui me sert « Où est la maison des syndicats ?» À sa place, la patronne extraordinairement criarde. « Je ne peux pas vous dire, madame. »«
Lucie ! On te demande à la table, là-bas. »
Et elle me tourne le dos d'un air digne. Malgré le fort organe de la patronne, personne ne s'est retourné sur nous. Nous sortons. Les ouvriers avancent, avancent toujours. Le 1er mai. Nous filons plus loin. Un quai de Seine. Des usines, des villas abandonnées, des caboulots, Suresnes. L'usine de parfum Coty. Le calme. Nous faisons le tour de droite, de gauche. Le silence. Personne. Qu'est-ce que c'est que cela ? Poursuivons. Les rues étriquées de puteaux. Nous avançons avec peine. Nous croisons un tramway et arrivons à un café dans la cour duquel se sont installés les syndicats, le Rouge et le Social-Démocrate. Les grévistes viennent s'y faire connaître. Leur foule se presse dans la petite cour. Sur les bancs, des piles d'humanité, des revues. Sur les murs de la petite pièce, des affiches. Un petit portrait au crayon de Staline. Dans les rues de Puteaux, nous découvrons pour la première fois, ce matin, un car de police. Courbevoie. Un meeting y est annoncé pour 10h, place du marché. L'animation règne. Les ouvriers désœuvrés et pleins d'attente errent par les rues. La place est noire de policiers. Un flic nous a suivis au café. Le cheveu noir, l'œil torve. Il a une si sale gueule que ce n'est pas une figure, c'est une enseigne. Les policiers bousculent les passants. « Circulez, circulez ! Dispersez-vous !» Le préfet de police, lui-même, Langeron, fait à Courbevoie l'honneur de sa présence. Le meeting n'a pas eu lieu. Levallois. Les usines Citroën, Peugeot et de nombreux garages. La majorité des usines, Citroën par exemple, ont été fermées dès samedi par les patrons eux-mêmes. 75% des chauffeurs n'ont pas pris le travail. Et ce matin, dans cet immeuble en construction, la police a confisqué un drapeau rouge. Nous retournons à Boulogne, le cœur lourd. Un 1er mai comme ça, il n'y a pas à s'en vanter. Mais le 12 février, le jour de la grève générale, ceux qui avaient commencé le matin de bonne heure n'avaient pas repris le travail après la pause, des barricades s'étaient subitement dressées et après une furieuse bataille, la police s'était retirée. Peut-être qu'aujourd'hui aussi, les ouvriers ne retourneront pas à l'usine après-midi et se rendront à la manifestation du bois de Vincennes, fixée à 2h30. Nous nous arrêtons devant la porte de la coopérative de Boulogne, avenue Jean Jaurès. Nous descendons de voiture et traversons la large voie. Le trottoir est plein de monde. Un blond, à la large carrure, nous salue joyeusement, mais change aussitôt de mine. « Le commissaire de Boulogne est là, » dit-il. Un homme corpulent, en chapeau gris, se tient entre l'arrêt du tramway et une petite voiture de muguet. « Alors, on se promène ?» nous demande le blond, désemparé. Le chapeau gris nous considère avec un intérêt non dissimulé. On voit le soupçon couvé sous le chapeau gris. « Quel beau temps ! Au revoir !» dit le blond. « Nous nous dirigeons vers l'éventaire de muguet. J'en achète. Mes compagnons sont à côté de moi. Et voilà le chapeau gris qui achète du muguet, lui aussi. » Une animation extraordinaire. Les gars passent, un, deux, trois, ils achètent tous du muguet et nous glissent. « Tirez-vous !» Le vendeur regarde par-dessus nos têtes. Ne demande pas d'argent, ne rend pas de monnaie. Le blond, ne sachant que faire, prend un gros bouquet de muguet dont les tiges sont enveloppées dans un papier blanc. Le commissaire abandonne son achat et lui arrache son bouquet des mains. « Donne-moi ça donc !» Et il s'empresse de défaire le papier. Il cherche un billet, du diable si je sais quoi. Nous rejoignons la voiture, nous nous installons, le moteur est déjà en route lorsque le commissaire, qui jusqu'à la dernière minute ne s'était pas décidé à nous interpeller, se dresse devant nous. « Police, vos papiers. » Les papiers sont en règle, une carte de journaliste de l'Humanité. En attendant, le commissaire, indécis, rend leur liberté aux conspirateurs. Et cela aurait été si beau, Sonia, la main d'or, tentant de passer inaperçue dans sa voiture bleu vif, transmet les ordres du comité central dans un bouquet de muguet. Vers 3 heures, nous traversons un Paris couvert de muguet comme de confettis blancs et nous dirigeons vers le bois de Vincennes. Une menaçante nuée de police est déjà rassemblée autour. Dans le bois, c'est la foule, des orateurs sur des tréteaux, des drapeaux rouges, des gens installés dans les arbres, sur l'herbe, soleil, verdure, enfants, insouciance de fête. Les Français sont une matière inflammable. Cette foule de promeneurs, amollie par le soleil, peut se transformer d'un seul coup en colonne de feu. On aurait déjà pu croire que les journaux avaient raison, que Paris garderait tout son calme, que le 1er mai n'était plus un symbole de lutte et s'était définitivement changé en fête du printemps, uniquement marqué par le muguet, lorsque les premiers heurts avec la police se sont produits. Des colonnes sortaient du bois, des étincelles volaient. La cité s'est furieusement défendue jusqu'à 3 heures du matin. Vers 8 heures environ, à l'heure où la police ouvrait le feu contre la cité Jeanne d'Arc, elle se retirait à Alfortville, où le lendemain, le drapeau rouge flottait sur les toits de ce qu'on appelle les habitations à bon marché. Le 1er mai 1934 est entré dans l'histoire du mouvement ouvrier de France.